Donc, notre atelier consistait à aborder le problème des recommandations par la HAS et les sociétés savantes et le problème de l'indépendance des experts, posant la question de savoir si c'était une source de surmédicalisation. On a eu une introduction très intéressante par Didier Dreyfus, qui n'est pas du tout dans le domaine de la médecine générale, donc c'est la réanimation, et nous a montré à quel point les conflits d'intérêts jouaient un rôle majeur dans les recommandations. Notamment, il nous a cité l'exemple de l'impératif qui consiste à mettre immédiatement sous hémodialyse les personnes qui sont en anémie par insuffisance rénale aiguë. Et si on ne faisait pas, on était vraiment à qui il y a une étude indépendante, a été effectuée indépendante des fabricants de produits de dialyse. Eh bien, elle a randomisé des patients qui avaient cette infection et la moitié a eu donc une dialyse immédiate et les autres, chez eux, on a retardé la dialyse. On a regardé ce qu'il en était. Eh bien, en retardant la dialyse, on réduisait le nombre de patients qui étaient dialysés. Et on n'avait absolument aucune différence de morbi-mortalité. Personne n'avait fait cette étude auparavant, tout simplement parce que la quasi-totalité des experts susceptibles de le faire avaient des intérêts financiers dans les industries de santé. Voilà. Donc, c'était un exemple très intéressant pour montrer qu'effectivement, il y a des études qui ne sont jamais entreprises parce que ça va à l'encontre des intérêts des industriels qui sont liés à ceux qui travaillent sur ce problème. C'est vrai que l'industrie a beaucoup plus de moyens financiers que l'État ou que l'université pour pouvoir évaluer les médicaments. Et ça, c'est vraiment un problème majeur. Alors, il faut une régularisation avec une pénalisation des mauvaises pratiques. Par exemple, changer un critère de jugement principal en cours d'étude. Aujourd'hui, c'est pour les industriels, enfin pour ceux qui financent des essais contrôlés, randomisés, donc essentiellement l'industrie, ça devient quelque chose de quasiment impossible parce que ça passerait plus. Mais par ailleurs, il y a des tas de techniques d'embellissement qui consistent, quand un essai est négatif sur le critère de jugement principal, à le transformer en essai positif en utilisant des critères de jugement secondaire et en ayant malgré tout une conclusion positive. Ça se voit régulièrement quand on lit les publications dans les grands journaux comme le Lancet, particulièrement le Lancet et le Journal of Medicine. Donc, les industriels malgré tout deviennent plus prudents parce qu'ils savent qu'ils sont de moins en moins crédibles. Il y a quand même une vague de contestation qui se développe auprès des médias. On a vu toutes les émissions qui ont été faites sur cholestérol, l'ostéoporose, etc. Donc, ils sont quand même un peu plus prudents. Malgré tout, on a passé une interview de Buzyn, quand elle n'était pas encore ministre, qui explique que pour elle, les experts indépendants ne sont pas vraiment des experts qui peuvent être qualifiés. Et il y a toute une distinction jésuitique entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est mal, lien d'intérêt, c'est normal. Comme si, finalement, on pouvait, quand on a des liens d'intérêt, ne pas avoir de conflit d'intérêt. On sait que les jésuites étaient très forts pour gagner ce genre d'argumentation, et c'est vrai que c'est du même ordre. Donc, la tendance est aussi de minimiser systématiquement l'influence du rôle des liens d'intérêt dans les recommandations émises par les sociétés savantes et la HAS. Alors, on sait historiquement que Formandep a fait un énorme travail là-dessus, que notamment les recommandations concernant la maladie d'Alzheimer et le diabète ont été revues, qu'elles étaient bourrées de liens d'intérêt, que la quasi-totalité de ceux qui recommandait des médicaments totalement inefficaces et ayant un rapport bénéfice-risque négatif dans la maladie de sa mère, étaient payés, rémunérés par les laboratoires. En ce qui concerne les sociétés savantes, elles sont à 100% financées par l'industrie pharmaceutique. Je crois que ce n'est pas 80% ni 90%, c'est 100%. Avec des experts qui sont des leaders d'opinion, l'école, qui le maire, qui touchent en plus de l'argent de l'industrie. Donc, on ne peut pas s'attendre de leur part à une objectivité scientifique. C'est quasiment impossible. Alors, le problème, c'est de trouver des experts indépendants. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Je crois que c'est tout à fait réalisable. La Cochrane l'a démontré, puisqu'ils sont... c'est Jean-Claude qui nous a dit qu'il y a 35 000 experts indépendants à la Cochrane qui fait un travail remarquable depuis des années. Donc ça doit être possible, il faut s'en donner les moyens. Or, la France, sur ce plan-là, elle est disons, assez désastreuse. Donc, après cette introduction, alors on a cité comme exemple les recommandations de la HAS ou PMI, qui sont... un copier-coller des recommandations de la Société européenne de cardiologie, où là, vraiment, ce sont tous des cols, des care opinion leaders qui sont rémunérés par l'industrie. On a cité aussi l'exemple de Michel Aubier, pneumologue lié à Total, qui déniait les dangers des microparticules. C'est curieux qu'on m'avait demandé de faire un travail là-dessus, que le responsable qui avait demandé ce travail était le seul à ne pas savoir qui travaillait pour Total. Il y a quand même, enfin, il y a vraiment il y a un énorme problème dans notre public bananière, des fois.
6 minutes.
Alors, on va être rapide. Il y a eu un exposé de Julien Avera sur l'implantation. Alors, j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est l'implantation des politiques de licence socialement responsables dans les universités et institutions de recherche financées par les fonds publics. Et effectivement, dans certains pays, les universités ont des pouvoirs concernant les licences et les brevets, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà. Alors, avec des interventions possibles sur le prix du médicament et son impact sur les remboursements. Alors, on a cité le cas du sofosbuvir, notamment dans les pays émergents. Le travail suivant portait sur le dépistage prénatal non invasif, avec comme titre quand les recommandations conduisent à la surmédicalisation. Et donc, c'était un travail fait par une sociologue, donc c'est Karine Vassy. Donc c'est intéressant de voir que finalement les sociologues, ça c'est l'importance des sciences sociales, peuvent apporter par rapport au regard habituel un regard plus distancié sur les recommandations. Et elle montre que finalement l'étude de l'ADN fœtal du sang maternel pour dépister la trisomie 21 et d'autres anomalies génétiques s'est traduite par un changement de recommandation, ou plutôt par un rapport fait en 2015 par la HAS, premier rapport, puis un deuxième d'ordre médico-économique, qui avait conclu que le test était trop cher. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont encore recommandé d'utiliser en deuxième intention. Ça c'est bien, mais ils ont baissé le seuil de risque. Le seuil de risque avec les tests classiques c'était 1 sur 250, et ils sont allés jusqu'à 1 sur 1000. Donc, augmentation du nombre de femmes éligibles. Alors, pas de prise en compte du coût psychologique et mauvaise appréciation du coût financier qui revient, d'après un calcul, à 18 millions d'euros annuels supplémentaires. Voilà. Donc, ce type de recommandation, il est montré qu'il dépend du groupe des experts. Alors on sait que dans ce genre de recommandation, il y a un poids énorme des sociétés savantes d'obstétrique et de cytogénétique au dépend de la santé publique, qui est la médecine générale. Et pas du tout de prise en compte de la formation des femmes enceintes sur ces nouvelles recommandations, et sur la formation des professionnels de santé qui ont été carrément délaissés. Voilà. Enfin, la dernière intervention, C'était une mise au point par Daniel Barbotin, qui est à la fois gynécologue et patiente, sur les inhibiteurs de l'aromatase 14 ans après l'autorisation de mise sur le marché. Elle rappelle que les IA provoquent une carence profonde en oestrogène, qui n'a jamais dans l'histoire de l'humanité été provoquée à ce point, puisqu'il n'y a plus d'oestrogène du tout en inhibant les aromatases qui transforment les androgènes des tissus périphériques en oestrogènes. Alors qu'avec le tamoxifène, ces aromatases continuaient à agir et elles ont été comparées au tamoxifène sur un critère intermédiaire qui est la survie sans progression, donc on connaît les limites, et pas sur la survie globale, qui est le seul critère robuste. Et cette survie sans récidive porte essentiellement sur un risque peu important qui est le risque contralatéral. Alors, au début, ils étaient très prudents, c'était en 2005, et puis maintenant, c'est recommandé systématiquement en première intention chez les femmes ménopausées, traitées pour un cancer du sein ayant des récepteurs hormonaux. Alors, il y a un problème qui n'a pas été abordé, mais je voudrais signaler, entre les Américains et les Européens, c'est que pour les Américains, les récepteurs hormonaux sont positifs à partir de 1% de ces gens. Pour les Européens, c'est 10%. Donc les publications ne sont pas transposables d'un continent à l'autre. Ça, c'est quand même un problème. Deuxièmement, on a démontré qu'aux États-Unis, entre 1% et 10%, par rapport à l'absence de récepteurs hormonaux, c'était quasiment pareil. Donc dans ce domaine, les États-Unis sont vraiment moins bons que les Européens. C'est-à-dire ils surtraitent des femmes qui ont un cancer du sein avec très peu de récepteurs hormonaux et les surtraitent aux inhibiteurs d'aromatase pour un bénéfice donc qui est effectivement encore moindre. Bon, ça, voilà, ça c'était joli de signaler pour vous montrer que les choses ne sont pas toujours très simples, qu'on n'est pas parfois plus mauvais que les Américains. Alors, il semble aussi qu'il existe une augmentation du risque cardiovasculaire et particulièrement des infarctus. Ça avait été noté déjà dans les publications qui comparaient au tamoxifène. On peut se demander, étant donné que ces femmes sont en risque cardiovasculaire d'infarctus du fait qu'elles presque toutes ont eu une radiothérapie, s'il ne risque pas d'avoir un facteur multiplicatif. Les effets musculo-squelettiques au début ont été complètement occultés. On ne les voit pas apparaître dans les premiers essais, alors qu'ils sont au premier rang des effets indésirables. Et on sait que le cartilage a besoin d'oestrogène pour que les articulations puissent fonctionner normalement. Là, il n'y a plus d'oestrogène du tout. Donc, on a une explosion d'arthralgie et de troubles musculo-squelettiques qui sont majeurs, voire même de rhumatisme inflammatoire hormono-dépendant qu'on constate, puisqu'il y a une persistance de ces troubles malgré l'arrêt des inhibiteurs de l'aromatase. Plus des effets indésirables connus comme l'ostéoporose. Avec partout, dans tous les cas, une augmentation de la sensibilité à la douleur. Et surtout, une mauvaise observance quand les autologues tiennent absolument à ce que les patients continuent leur inhibiteur de l'aromatase. Aujourd'hui, heureusement, on voit, un switch. J'ai faim qui ne tolère pas de nouveau vers le tamoxifène.
Comment ? C'est fini ? Non.
Bon, ben voilà. Alors, il y a eu tout le débat qui portait essentiellement sur le caractère très contestable des recommandations et le fait des experts ayant d'énormes conflits d'intérêts qui sont complètement occultés. Et ça, c'est donc une intervention de François Pesty qui a montré qu'il n'y avait pas de gestion sérieuse de ce problème. Il y avait aussi le problème du crédit d'impôt aux entreprises du médicament qui était accordé puisqu'ils sont censés faire de la recherche. On a vu que ce n'était pas pendant toute une période le cas de Sanofi qui a bien profité de ces crédits d'impôt. Voilà à peu près rapidement rapporté le compte-rendu de l'atelier.